Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices engagés dans les questions de l'écologie et de la solidarité à Marseille. Nous sommes en direct ce mercredi de 19h à 20h. L'émission sera diffusée jeudi de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère. Je suis Gillian Mathieu, j'anime cette émission pour la première fois. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Arthur Lanterre, qui travaille chez les Demi-Trente Glorieuses. Alors si on connaît tous les Trente Glorieuses, un terme forgé par l'économiste Jean Forestier, qui désigne l'augmentation du niveau de vie et la croissance durant les années d'après-guerre, ce voyage-là va être un peu plus joyeux, je l'espère. Alors bienvenue Arthur dans cette émission. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et dire pourquoi tu t'engages dans l'écologie et la solidarité ?
Bonsoir, oui bien sûr. Alors mon parcours est assez atypique. Bon, j'ai commencé par être vraiment utopiste dès l'adolescence, je dirais. En tout cas, j'ai l'utopiste et le nihiliste qui se sont affrontés et c'est l'utopiste qui a gagné. J'ai commencé par faire beaucoup de musique avec le côté ingé son, direction artistique, jazz et plein de choses comme ça au début de ma carrière. Je me suis réorienté parce que j'avais, après avoir travaillé en tant que musicien, manager, etc., j'ai eu envie d'avoir plus d'impact sur la transformation de notre monde. Et pour ça, je me suis dit que le numérique était une réelle ressource. Et j'avais envie de monter une plateforme tout simplement très modestement pour sauver le monde et très naïvement sauf que je n'y connaissais absolument rien en technologie. Moi ce que je connaissais c'était l'harmonie, les mélodies, la composition, l'improvisation, les jams, tout ça. Tout simplement je me suis formé pour devenir développeur. J'ai fait l'école 42, j'ai travaillé après dans plein de boîtes, plus ou moins vertueuses, mais en tout cas qui m'ont appris plein de choses. C'était il y a à peu près 2 ans, j'ai recontacté Julien Vidal, avec qui je travaille aujourd'hui, en lui disant que j'avais envie de l'aider, à déployer ses beaux projets, puisqu'ils étaient totalement alignés avec ceux que j'avais dans la tête depuis des années. Et c'est comme ça que j'ai remis les pieds dans les 2030 Glorieuses.
Et donc une nouvelle réorientation à ce moment-là, si je comprends bien, après être musicien, développeur, donc une nouvelle casquette qui s'ajoute. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter, nous dire ce que c'est exactement voyager en 2030 Glorieuses ?
Tout à fait. Alors bon, déjà, c'est pas tout à fait une nouvelle casquette, puisque c'est une pierre qui est dans la continuité de ce chemin. Finalement, c'est un peu comme si tout ce que j'avais fait avant m'avait permis d'être à ma juste place aujourd'hui. En quoi ça consiste un voyage en 2030 glorieuse ? Tout simplement, c'est se projeter dans cette belle époque, cette époque incroyable, fabuleuse, dans laquelle on a réussi à faire émerger une société plus juste, plus durable, dans laquelle les gens sont plus heureux. Et donc, on a plein de manières de faire voyager les gens en 2030 glorieuse.
Et donc, plusieurs manières. Donc, il y a les ateliers que vous animez, ainsi que des podcasts, des livres. Donc, toute une galaxie qui permet de graviter dans cet environnement-là.
Effectivement.
Et donc, comment est-ce que tu peux nous en dire plus, par exemple, sur comment se déroule un atelier comment on peut y participer, par exemple, et qu'est-ce qui ressort de ces ateliers de prospective ?
Bien sûr, tout à fait. On organise effectivement des voyages en 2030 glorieuses. C'est un format d'atelier un petit peu comme la fresque du climat pour ceux qui connaissent, qui est un format très complémentaire et qui est quand même très différent dans le sens où on ne vient vraiment pas apporter de l'information. On n'est pas là pour vulgariser un savoir. La fresque du climat, je rappelle que c'est réellement pour vulgariser le rapport du GIEC, notamment, donc permettre aux éco-sceptiques de virer éco-anxieux pour vulgariser un petit peu l'atelier en tant que tel. Nous, on vient vraiment sur un aspect de sensibilisation, mais réellement d'inspiration. Les voyages en 2030 glorieuses, donc c'est un atelier de 2 heures pendant lesquelles on va inviter les participants, donc les voyageurs, à imaginer, à dessiner les contours de cette société, de l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle sociétale. Donc pour participer, déjà, il y a toutes les informations sur notre site 2030glorieuse avec un s.org, 2030 tout en chiffres. Dans la partie événements, il y a les différents ateliers qui sont disponibles auxquels on peut s'inscrire pour le voyage. Mais on organise aussi des déjeuners utopistes. Bientôt, on va voir les méditations utopistes. On a plein d'autres ateliers qui permettent de cultiver justement l'utopiste qui résonne et qui réside en chacun de nous.
Et est-ce qu'il faut avoir fait auparavant une fresque ou alors tu nommais la fresque du climat, mais est-ce que pour participer à un atelier, il faut avoir déjà une base partagée de constats ou bien tout le monde peut participer à partir de zéro?
Écoute, nous, on a vraiment pensé l'atelier pour qu'il s'adresse à tout le monde. On est un format qui va autant pouvoir parler aux éco-anxieux qu'aux éco-sceptiques. Et en ce sens, c'est très intéressant en complémentarité de la fresque du climat pour ceux qui l'ont déjà fait et qui ont besoin peut-être d'un élan de motivation. Mais c'est aussi une superbe approche pour tous ceux qui ont peur de l'écologie, parfois considérée comme un peu punitive dans laquelle on se dit qu'il faut arrêter de voyager, arrêter de manger ce qu'on aime, arrêter de faire des enfants. C'est aussi offrir une approche qui montre que non, l'écologie, c'est aussi parfois une superbe opportunité pour se transformer et se faire beaucoup de bien.
Et moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de participer à un atelier. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Et déjà, au niveau graphique, c'est très beau. Donc, pour féliciter les illustrateurs du plateau. Et ce que j'avais apprécié, c'est aussi que c'est un jeu d'intelligence collective. Donc, c'est pas qu'on est tout seul dans son coin à penser une solution, mais qu'on se met à plusieurs, on se confronte. Et c'est là que les idées arrivent aussi. Donc, est-ce que tu peux peut-être décrire ce processus
Bien sûr. Alors on a, comme je disais tout à l'heure, on a différentes phases, des phases plus introspectives, des phases plus dans l'échange, et on commence par poser la question à tous les participants de à quoi ressemble leur vie en 2030 glorieuse. Et donc, qui se pose la question de, en 2030, ou en tout cas dans la décennie des 2030 glorieuses, où est-ce qu'ils habiteront? Est-ce qu'ils habitent toujours en ville? Ou alors, est-ce qu'ils habitent plutôt dans la nature? Est-ce que la ville s'est transformée? Quel est leur travail? Peut-être seulement 4 jours par semaine? Quelle est la place de leur hobby, de leur passion dans leur vie, leur lien à leur famille, à leurs amis, et questionner aussi peut-être leur rapport au temps, puisque aujourd'hui on est quand même dans une société qui file à toute allure. Peut-être que justement en 2030 glorieuse on arrive à ralentir le rythme et à prendre le temps de se faire du bien. Et donc on a cette phase plus introspective, ensuite on a un tour de présentation de chaque personne qui va dire en un tour de table. On est autour de 6-7 personnes assises autour de la table, vraiment comme un jeu de plateau. Sauf qu'au lieu de jouer à risque ou à blanc manger coco, on va se rencontrer dans un contexte un petit peu plus optimiste en général. C'est à l'unanimité, c'est pas en général, c'est toujours plus optimiste. C'est l'une des seules règles finalement, les règles du voyage, je dirais que c'est s'autoriser à être optimiste, faire preuve de bienveillance et puis rester en 2030. C'est les seules règles. Après, si on s'écarte du plateau, c'est pas grave. Mais après ces phases introspectives, on a quand même des questions vraiment sur la société, dans lesquelles on va inviter les participants à se demander ensemble ce que c'est qu'une société plus durable et plus solidaire. Se poser la question de en quoi les citoyens ont été l'étincelle dans ce parcours, dans l'avènement des 2030 glorieuses, comment les décideurs politiques et économiques, s'il y en a toujours, et s'ils n'ont pas été remplacés par une assemblée citoyenne permanente, comment est-ce qu'ils ont réussi à se mettre à la hauteur des enjeux? Et enfin, quelles sont les nouvelles boussoles de notre société? Comment est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui en 2030, j'entends bien, comment est-ce qu'on a réussi à donner de nouveaux caps?
Tout ça est vraiment hyper intéressant et je me pose la question de, est-ce que vous avez réussi à dégager des tendances? Alors j'ai même l'imagination à ça d'incroyable qu'on peut penser tout ce qu'on veut et c'est assez... On peut être très créatif, mais est-ce qu'il y a quand même des grandes tendances qui ressortent de ces ateliers? En fait, de quoi on souffre aujourd'hui? C'est la question qui est derrière. Qu'est-ce qui ne va pas en 2023 qu'on pourrait espérer imaginer en 2030?
Bien sûr. J'entends tout à fait ta question et je tiens à préciser que notre but vraiment n'est pas de collecter de l'information pendant un atelier. D'accord. Ça, on peut le faire dans certains cadres, pour certaines prestations, pour des collectivités ou des entreprises qui nous demandent particulièrement de travailler là-dessus. Mais le but premier des voyages en 2030 glorieuses, c'est véritablement de réapprendre à chacun à rêver, de cultiver l'optimisme qu'il a en lui, de se reconnecter à l'utopie et arriver à se projeter dans des futurs désirables. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup défaut quand on est dans une époque dans laquelle on vit beaucoup dans des mythes partagés de dystopie. Quand on parle sans arrêt d'effondrement, bah, y a de grandes chances pour qu'on les voit advenir. Et tu parlais, quand même pour répondre à ta question, effectivement, on a quelques tendances qui se dessinent, bien que chaque voyage soit unique, et c'est ça qui est fabuleux, c'est dans la richesse de la diversité des participants qu'on vit une expérience qui est toujours nouvelle. Les tendances qui vont apparaître, c'est souvent plus de nature, plus ce rapport au temps, toujours ce rapport au temps. Les gens, j'ai l'impression qu'ils courent vraiment toujours après leur vie, parce que quand ils se posent réellement la question, c'est surtout ça qui change. C'est le temps qui se réapproprie et peut-être vivre ailleurs, vivre plus dans la nature pour s'autoriser aussi à avoir cet autre rapport au temps.
Oui, ce sont ça des choses qu'on a pu expérimenter durant la crise de Covid, le rapport à la nature, le rapport au temps. Et vous, avec les 2030 glorieuses, vous permettez aussi aux gens de prendre un moment, de prendre vraiment un moment pour se poser les questions de ce qu'on souhaite faire. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément au quotidien. Donc c'est génial de pouvoir le proposer et le faire. Et donc j'ai entendu que tu parlais d'entreprise et donc de grand public aussi. Donc je me pose la question, quel est votre public ? À qui est-ce que vous proposez ces ateliers-là de manière générale ?
Bien sûr. Alors souvent, ce n'est pas nous qui allons chercher à le proposer. C'est des gens qui en entendent parler et qui viennent nous demander. Et comme je le disais, on le fait autant avec du grand public, on le fait avec des collectivités, des agglomérations de communes, mais on peut le faire avec des entreprises, au sein d'une entreprise. On le fait aussi avec des associations, notamment je pense au Centre des Jeunes Dirigeants, le CJD, qui est une association de dirigeants d'entreprise. Donc on va tout de suite aller travailler avec des dirigeants d'entreprise pour les inviter à se projeter dans un monde souhaitable, dans des futurs souhaitables, pour arriver à transformer leur manière d'entreprendre aussi, leur manière de prendre des décisions pour leurs entreprises. On travaille aussi avec les centres sociaux, par exemple. On a travaillé notamment, on a fait un voyage pour la Fédération nationale des centres sociaux. Et puis, après ce grand voyage qu'on a fait pour plus d'une centaine de personnes qui étaient venues de toute la France, on essaime maintenant, puisqu'on a, par exemple, les centres sociaux de Dunkerque qui nous ont commandé 50 kits de voyage, et on a formé 40 personnes pour qu'ils puissent l'animer par eux-mêmes. On a la même chose qui se passe dans le centre social d'Ubacaou, je crois, dans le Pays Basque.
Donc le bouche à oreille fonctionne très bien et vous avez beaucoup de sollicitations.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, l'une des particularités, tout comme les fresques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous formez aussi des personnes qui ont participé à l'atelier pour diffuser le plus possible, parce que c'est ça aussi votre but. C'est pas forcément de dire on est derrière les 30 glorieuses, c'est que tout le monde s'en empare et puisse rêver et voyager. Il y a un petit peu tout ça derrière aussi.
Tout à fait, effectivement.
Dans les 2030 glorieuses, hormis ces ateliers-là, c'est une galaxie, il y a beaucoup d'autres choses. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des livres par Julien Vidal notamment, des podcasts. Qu'est-ce qui compose cette galaxie ?
Tout à fait. Je tiens quand même à dire en deux mots que c'est Julien Vidal qui a l'initiative de ce beau projet. Je l'ai rejoint donc il y a 2 ans en tant que bénévole déjà dans un premier temps, et c'est lui qui avait initié donc les podcasts 2030 glorieuses pendant le Covid justement, pendant cette période où on se posait la question du temps long. Et il a commencé par aller à la rencontre des signaux faibles des personnes qui incarnent déjà les 2030 glorieuses aujourd'hui, en allant interviewer notamment des managers de Fab Lab, la fondatrice de l'ITA, un fonds d'investissement citoyen à impact, mais aussi un maître composteur, ce genre de personnes qui vivent déjà en 2030 glorieuses alors qu'ils sont en 2023 et qui rayonnent déjà et qui inspirent des gens autour d'eux.
Donc qui ont un peu les métiers de demain, mais dès aujourd'hui.
C'est ça. Nous, quand on pense métier de demain, on ne pense pas manager d'intelligence artificielle. Clairement pas. C'est une partie, mais quand on voit des statistiques comme quoi 80% des emplois en 2030 seront dans le numérique, nous, on n'y croit pas. On part vraiment du constat que le numérique, certes, ça va grandir, mais, et moi le premier, hein, je travaille dans la tech, effectivement, je reçois des demandes LinkedIn en permanence, mais j'ai aucun intérêt à être développeur, c'est pas le monde que je veux pour ma fille, c'est pas ça que je veux développer.
Ou bien c'est la technologie au service de l'humain.
Tout à fait.
Et j'ai un petit peu regardé les podcasts, les personnes qui avaient été reçues par Julien Vidal dans ces podcasts-là, et je voyais quelque part un peu dans ces métiers de demain, le besoin de donner du sens aussi, et donc se dire quel métier je vais pouvoir exercer qui va pouvoir permettre d'œuvrer à la transition écologique, ou en tout cas qui ne va pas causer de dommages à la planète, à notre environnement. Et par ces métiers-là, donc il y avait des métiers dont j'avais jamais entendu parler, comme maître composteur, gendarme de l'environnement, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais c'est une autre manière aussi d'inspirer à travers ces témoignages.
Tout à fait.
Dans les livres, donc les livres de Julien Vidal, les podcasts.
Ouais, des boulangers qui travaillent avec des fours à énergie solaire, par exemple. C'est des choses, dans un contexte de crise de l'énergie, le simple fait d'utiliser le soleil, et à Marseille, clairement, on n'en manque pas de soleil,
ouais.
on pourrait tout à fait penser à ce genre de ressources. Et c'est l'avènement du low-tech, c'est des choses qui sont pas forcément nouvelles, mais simplement, toutes ces dynamiques, toutes ces solutions qui existent déjà très largement à travers la planète, la question de l'avènement des 2030 glorieuses, c'est pas de tout réinventer, c'est simplement d'arriver à faire passer à échelle de nombreuses initiatives qui existent déjà. Et tu parlais justement de ces métiers dans les podcasts que tu découvrais. Julien vient tout juste de publier un nouveau livre aux éditions Vuibert qui s'appelle « Mon métier aura du sens ». Et je suis ravi de pouvoir dire que moi, mon métier, il a déjà du sens en travaillant avec lui.
Et tu penses qu'on peut tous trouver, alors pour ceux qui se questionnent ou pour ceux qui ont envie de se réorienter, on peut tous trouver des idées de métier pour la suite qui soit possible d'exercer de manière joyeuse en 2030 dans une société plus heureuse, plus durable et plus égalitaire.
Et je dirais même, il n'est pas question de pouvoir trouver. Il est urgent qu'on trouve tous quelque chose qui va dans ce sens. On s'est laissé beaucoup trop aller, on s'est laissé convaincre, on s'est laissé endormir. Et je ne veux pas pointer quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui est responsable de ça. Hein. C'est simplement notre inconscient collectif dans lequel on se laisse tromper. Il y a des dizaines d'années, on disait que justement l'avènement, et même quelques centaines d'années, on disait que l'avènement de l'industrialisation allait permettre aux gens de beaucoup moins travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, on travaille beaucoup moins ? Non, aujourd'hui, on a moins de temps.
Aujourd'hui, on parle de bullshit jobs, notamment.
Tout à fait. Il y a de la démission en interne. On refuse de travailler. Et est-ce que c'est réellement ça qu'on souhaite pour notre vie ? On n'a qu'une vie. Non, on n'a pas du tout envie de ça. Il est urgent qu'on arrive à rêver à nouveau, qu'on se reconnecte à notre enfant intérieur, qu'on se pose la question de quel est le monde qu'on a envie de voir, quel est le monde qu'on a envie de façonner, puisqu'aujourd'hui, le simple fait d'exister, on a tous un impact sur les futurs qui vont advenir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut tous s'affirmer dans notre manière d'être pour faire tendre notre collectivité vers la bonne direction ?
Et donc quelque part,
les bonnes directions même.
Oui, parce que chacun, enfin, il n'y a pas qu'une seule bonne direction, mais chacun peut trouver la sienne. Mmh. Et donc, de ce que je comprends, en participant à un atelier 2030 Glorieuse, en lisant peut-être le livre de Julien Vidal, en écoutant les podcasts, on peut s'enrichir, s'inspirer et vraiment suivre toutes les étapes d'une réorientation, se questionner, trouver des idées et puis passer à l'action par la suite. Tout ça de manière très positive, alors que c'est vrai que l'écologie, c'est beaucoup vu comme... on parle de Khmer Vert, d'éco-terroriste, d'Amish, mais ça peut être aussi quelque chose de très joyeux, de sobriété heureuse, de positif. Et c'est ça qu'il faut changer aussi, la perception de l'imaginaire positif de l'écologie.
Tout à fait. Et c'est dommage. C'est un peu triste qu'aujourd'hui, on arrive à... qui est un peu cette division et que parfois on met en opposition justement justice sociale et transition écologique. C'est, bon, sont des termes que j'aime pas particulièrement, mais pour moi, il est très important aussi qu'on se rende compte que ces deux concepts n'ont rien d'opposé. Au contraire, ils vont pleinement ensemble. Et justement, on arrive quand même à une époque, ça fait plus de 50 ans qu'on parle de l'urgence climatique, et enfin on commence à avoir des vrais signaux, y compris en France, y compris même en Bretagne.
Pourquoi y compris en Bretagne?
Mais parce qu'on disait qu'en Bretagne, de toute façon, il faudrait se réfugier en Bretagne parce qu'il y aurait toujours de l'eau et qu'il n'y aurait pas de problème. Mais au contraire, je viens de parler aujourd'hui même avec l'agglomération de Saint-Nazaire, et clairement ils ont des problèmes d'eau, ils ont des feux de forêt, l'urgence climatique elle est là, et les premiers qui vont en pâtir, c'est clairement les populations les plus sensibles. Et c'est malheureux que ces populations sensibles se disent que l'urgence climatique, l'urgence écologique, c'est pas leur souci. C'est clairement l'affaire de tous, et c'est les premiers qui vont en souffrir si on n'arrive pas à changer notre regard, notre conception, et si on n'arrive pas à être optimiste et soudé tous ensemble pour arriver à aller dans une meilleure direction.
Donc il y a beaucoup de travail à mettre en place pour changer cette perception-là, ces imaginaires. Mmh. Et quels sont les... Vous avez beaucoup de projets déjà. Est-ce qu'il y a des projets qui vous occupent particulièrement en ce moment, au-delà de ceux dont on a déjà pu parler?
Bien sûr. Alors, effectivement, on a beaucoup de projets de notre côté. Mais avant de dire un peu ce qu'on fait nous, je tiens à dire aussi qu'on n'est vraiment pas les seuls. Il y a plein d'autres réseaux qui existent. Il y a d'autres ateliers partenaires. Je vais les citer quand même. Il y a notamment les ateliers Futurs Proches, la fresque des nouveaux récits. Il y a le collectif Le Bruit qui court, un collectif d'artistes qui invite sur ces sujets-là à réfléchir. Il y a plein de choses qui se passent et qui vont dans ce sens-là. Il y a une question aussi que j'aime bien poser en début d'atelier, c'est combien est-ce que de films ou de livres dystopiques est-ce que vous connaissez? Et est-ce que vous pouvez m'en citer? Et souvent, il y en a plein.
Oui.
Là, si je te demande, est-ce que tu t'en as quelques-uns qui te viennent en tête?
Oui, Armageddon...
Ouais.
Peut-être, je sais pas si Star Wars peut le compter, mais
oui, et puis un peu plus direct, il y a du Terminator, du Mad Max. Ouais. Plus récent, il y a peut-être Black Mirror. Côté livre, il y a tout ce qui est Le Meilleur des Mondes de Huxley. Il y a 1984 de Orwell.
Alors que justement, ils voulaient critiquer cette société-là.
Bien sûr, mais ça reste des récits dystopiques. Ils sont passés par la dystopie pour critiquer, ce qui était essentiel, mais c'est un aspect, encore une fois, de sensibilisation. Et ça allait totalement de pair avec notre fascination un peu qui est la même que celle quand il y avait les Colisées de la Rome antique. Mais malheureusement, on a une surreprésentation de cette dystopie aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de récits utopiques, utopistes, qui sont présents dans nos vies. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à muscler cette capacité. Je dis souvent, quand je parle quand je conclue mon atelier, je parle aux voyageurs en leur disant que, bon, il y en a certains qui sont déjà des utopistes amateurs, voire un petit peu plus, mais qu'il y a potentiellement des tout débutants qui viennent de découvrir leur muscle de l'utopie et qui vont peut-être ressortir de là avec une petite crampe, mais que c'est quelque chose... Tu disais que c'est pas quelque chose qu'on fait quotidiennement, et bien justement, moi c'est ce que je propose, ce que j'invite à faire à tous les voyageurs. Maintenant qu'ils ont conscience de ce muscle, qu'ils apprennent à muscler cette utopiste qui est en eux, puisque en allant chercher de l'information, en lisant par exemple des livres comme Utopia, qui est un super bouquin qui a été écrit en 1974, hein, c'est un Américain qui était super visionnaire et qui a dépeint une société dans laquelle les trois États de l'Ouest américain, donc c'est Washington, Oregon et la Californie, qui font sécession et qui ont dit au reste des États-Unis, écoutez, nous on se barre et on va fonder Ecotopia et on monte notre nation qui sera écologique. Et je trouve ça fabuleux parce que ça se passe plusieurs années après cette sécession, cette guerre, et ils invitent pour la première fois un citoyen américain qui se trouve être un journaliste qui vient de New York. Et c'est un macho pas possible qui arrive en se disant « Oh là là, cette bande d'écolos, je vais me les faire, quoi. » Et je ne vais pas spoiler, mais c'est très intéressant de voir l'évolution de son regard.
Et est-ce qu'avec des films aussi, est-ce que tu connais des films qui proposent un futur un peu plus utopique et plus joyeux que les films qu'on vient de citer ?
Alors, très belle question. Et justement, je viens d'un festival où on m'a posé exactement cette question. Et je lance un appel. Si jamais vous en connaissez, envoyez-moi un message parce que
j'ai pensé à La Belle Verte peut-être.
C'est le premier qui vient en tête, c'est le seul en fait. Bravo à Colin Serrault parce que il n'est pas tout jeune ce film, mais c'est le seul qui vient en tête. Mais il y a quand même Cyril Dion qui a monté une boîte de prod toute neuve avec Marion Cotillard. Il y a aussi comment ça s'appelle déjà l'Assemblée des Imaginaires qui est en train de se monter, qui est une suggestion d'un ensemble d'acteurs. Je crois que c'est Bright Mirror qui a lancé cette initiative avec pas mal de personnes qui les aident en termes de subventions, de manière à collecter justement beaucoup de témoignages, beaucoup d'idées pour fédérer des futurs possibles et pouvoir en tirer un film.
Pendant que tu parlais, je réfléchissais aussi à un autre film qui pourrait, mais que j'ai pas encore vu, et tu as parlé des low-tech. Alors les low-tech sont des technologies qui sont accessibles à tous, facilement réparables, et donc qui montrent qu'on peut faire moins avec mieux. Donc par exemple, juste mettre un pull quand on a froid au lieu de chauffer tout un appartement, c'est déjà une low-tech dans la logique. Et il y a un film qui va sortir d'Adrien Bellet sur les low-tech qui pourrait peut-être montrer aussi une manière différente de voir les choses et pas simplement avec de la haute technologie partout. Donc à suivre pour celui-là. Je propose une petite pause avant de reprendre et avec un petit reporter aussi qui est en voyage. En 2030 Glorieuse, il va revenir après la pause. Donc en attendant, je vous propose une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes.
And I've been writing these down these days, my feeling enough now, well, I've been feeling enough now, baby. I don't understand much all these days, but I've been feeling it's over, well, I've been feeling it's over. Yeah. I only get the news these days, I fucking change the page, try and get the names out. I got these things that I can frame out, putting on my wall, trying to get these things and trying to figure that it all, but if you trying to get these things, you got this love that you be feeling now, oh yeah, yeah. You got it going crazy, got the little lines of the base, and you got the TV creeping and gargoyles, and you got the gargoyles. Got the same, the fangs and the same old rabbit oceans. Little TV presenters, mind with the soul cake, right with the damn lake. To support your team, get the cream on. But I be feeling like it's always plain. And when I be trying to get this thing, you be trying to get your life, but you be trying to breathe it in the night. You trying to get this thing, but always trying to steal the light. It's always chasing, but you don't really care. You got this bracing, but girl, you got to fit this bed. But please don't despair, you got to steal all you please. Hey, now I'm on my knees now, and I can go my own. Hey, I can get my own 2 cents, but it don't mean much to me.
Oh,
C'était un morceau composé par notre invité, Arthur Alentin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, ouais, effectivement. Donc ça, comme je le disais au début de l'émission, on le disait, j'ai à peu près 2-3 carrières derrière moi, j'ai l'impression. De temps en temps, les guides de voyage me disent « Mais attends, t'as quel âge ?» c'est pas possible, t'as plus de 40 ans, toi. Ce morceau, c'était un morceau qu'on avait, que j'avais composé d'une manière un peu particulière. J'avais écrit un petit peu la base, mais j'aime jouer de plein d'instruments, mais j'aime pas jouer tout seul. J'ai jamais eu envie de composer en enregistrant tous les instruments un par un chez moi. Par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai eu une idée et que j'ai demandé à des amis qui étaient d'ailleurs bien meilleurs que moi sur chacun des instrus d'enregistrer un par un ces instruments, et c'est moi qui les dirigeais. Donc on a commencé par enregistrer la batterie et la basse ensemble, c'est les seuls instruments qu'on a enregistrés ensemble. On a fait le piano, la guitare, un trombone, une trompette, je joue le saxo dessus, et puis on a terminé par le chanteur et la chanteuse, des très bons amis à moi, notamment qui ont chanté dans Metafump, un groupe de 13 musiciens que j'ai managé qui reprennent des morceaux de métal en funk, fusion, hip-hop. Donc voilà.
Eh bien, et est-ce que tu continues toujours un petit peu la musique ou tu es trop en 2030 glorieuse pour... Est-ce qu'on joue de la musique en 2030 glorieuse ?
En 2030 glorieuse, la musique est partout, non ? pas partout, parce qu'il y a aussi de l'espace pour la musique des oiseaux ou pour les rires d'enfants, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de voitures, et ouais. Donc on a plus d'espace aussi auditif. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de musique, notamment à Marseille, où je vis toujours, en 2030 glorieuse. Mais en 2023, je me rappelle, il y a 7 ans déjà, je faisais des jams au Coco Velten, beaucoup. C'était une jam que j'aimais beaucoup. Je l'ai animée plusieurs fois les derniers vendredis du mois. Et c'était un super moment où je pouvais être en communion avec les différents musiciens qui apprennent vraiment à se lâcher, à improviser, à se faire confiance et à beaucoup s'écouter. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est au Coco Velten, il y a énormément de respect.
Et donc c'était en fin mai 2023, la future prochaine, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ouais. C'était il y a 7 ans, le dernier vendredi du mois de mai.
C'est pas évident de faire la gymnastique d'esprit. En attendant, on va écouter, parce qu'on n'a pas lésiné sur les moyens chez Ecoforum, on va écouter un reporter qui est parti en voyage en 2030 glorieuse. Vous allez peut-être le reconnaître.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Je suis Marin, votre envoyé spécial en 2030 glorieuse. Très exactement, à Nasvinal, un petit village de Lozère, où je suis depuis maintenant plus d'une semaine sur les chemins de grande randonnée. Je voulais aborder avec vous les sujets de la déconnexion et de la reconnexion. Ça fait 3 jours que je n'avais pas allumé mon téléphone. Et là, je le rallume pour partager avec vous ce moment et ces petites réflexions. Vous savez, ces téléphones, ces outils qui aspiraient nos têtes et nos cœurs à longueur de journée en 2023 et qui, à l'arrivée, avaient aussi des conséquences palpables sur nos corps, complètement figés, la tête baissée, toujours attirés par cet écran de lumière. Là, c'est la première fois que je le rallume et je partage avec vous ce qu'il y a autour de moi. Je me suis déconnecté de tout ça, mais en réalité, on parle souvent de droit à la déconnexion, mais c'est pas tout à fait vrai, c'est le droit à la reconnexion. Parce que je suis complètement connecté à ce qui se passe autour de moi. Je ne sais pas si vous les entendez, il y a les oiseaux, le vent, les torrents, et puis les personnes qui sont avec moi sur ce chemin, parce qu'on n'est pas seul quand on marche. En 2030 glorieuse, on marche beaucoup plus. En 2030 glorieuse, on prend ce temps-là. Celui d'être pleinement présent dans l'instant. De toute façon, on a moins de moyens physiques, matériels, pour continuer la folie humaine qui était en cours en 2023. Et j'ai quelque chose à vous dire, c'est pas plus mal. Je dirais même que ça fait carrément du bien.
Donc c'était Marin qui nous a partagé son voyage en 2030 glorieuse. Et il a évidemment abordé plusieurs thèmes qu'on a évoqués ce soir-là. J'aimerais faire maintenant le lien peut-être avec la forêt des possibles, qui est un projet qu'on porte ici chez Ecoforum, donc qui est basé sur l'allégorie de l'arbre. Et c'est un processus de renaissance de notre société, porté par des structures qu'on a pu rencontrer, qu'on aimerait rencontrer. Et toi, en 2030 glorieuse, c'est quoi ta vision de Marseille ? Comment sera Marseille pour toi dans 7 ans ? C'est quoi ton idéal ?
Alors, je te propose justement qu'on joue le jeu de Marin. Et qu'à partir de maintenant, toi et moi, on ne parle plus des 2030 glorieuses depuis les 2023.
Très bien.
Mais ça va, tu commences, tu as déjà voyagé une fois en 2030, ouais. T'es rodé à l'exercice.
Mais j'ai fait les allers-retours, moi, c'est pour ça.
Ouais, tout à fait. Je tiens à remercier déjà Marin, c'est une super vision qu'il nous offre. Et effectivement, ce droit à la reconnexion, c'est fabuleux parce qu'aujourd'hui, c'est même un Je dirais même que c'est un devoir qu'on transmet à nos enfants et même que nos enfants nous transmettent. Moi, en 2030 glorieuse, ce qui est fabuleux, c'est que ma fille de 8 ans maintenant, waouh, elle a grandi en un clin d'œil, quoi. Je me rappelle encore hier, j'ai l'impression qu'elle avait 8 mois.
Ça va vite, hein.
Ouais, ça va très vite, trop vite.
Et pourtant, on a quand même réussi à remettre la main sur le temps, mais tout de même.
Ouais, tout à fait. Mais au moins, je passe beaucoup plus de temps avec elle maintenant. Déjà en 2023, j'étais très sensible à ça et je m'offrais des matinées entières par-ci, par-là, à passer juste avec elle, à aller me balader dans le parc du Faro. Maintenant, ce qui est génial, c'est que le parc du Faro, il a envahi les Catalans. c'est plus juste un petit parc et d'ailleurs, il n'y a plus de barrière, hein, on peut y aller quand on veut.
Même la nuit, donc.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a même des cabanes dans les arbres où on peut aller dormir si on a envie, comme ça, de temps en temps, quand il fait. Bon, ça arrive qu'il fasse quand même assez chaud. Et comme on a décidé unanimement pour le bien de Marseille de couper la plupart des clims, sauf dans quelques maisons de vie intergénérationnelle dans laquelle il y a encore des personnes très âgées qui vivent et qui ont besoin parfois de moments de fraîcheur. On s'autorise à dormir dehors dans les cabanes du parc des Catalans.
Et vous n'êtes pas gêné dans ce parc par des jeunes qui viennent écouter la musique, par exemple, qui viennent faire la fête ou
C'est fait en bonne intelligence. Ouais. Alors du coup, effectivement, on a pensé les parties de la ville pour que, de manière tournante, on puisse avoir dans chaque zone des parties où on va vraiment faire la fête. Et en même temps, comme on a le concept de propriété qui a totalement évolué, comme aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de possession d'un appartement ou d'une maison, et ben forcément, on peut plus facilement aller dans d'autres quartiers si on sait qu'il va y avoir la fête dans notre quartier. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup plus d'interactions aussi. On se connaît beaucoup plus les uns les autres autour de nous. Je me rappelle qu'en 2023, j'avais dû aller vraiment faire du porte-à-porte pour rencontrer tous mes voisins. Mais aujourd'hui, c'est fini puisqu'on a beaucoup plus de parties communes dans lesquelles on cuisine ensemble, on fait de la musique beaucoup ensemble. Hein. Donc il y a déjà tout ça qui a beaucoup évolué. Et puis, je t'ai pas parlé de mon métier en 2030.
C'est quoi ton métier en 2030 ?
Ce qui est cool, c'est que j'ai pas un métier fixe. Je m'éclate à changer un peu de métier au jour le jour. Ce qui est intéressant que je raconte, c'est quand même qu'en 2027, j'ai passé mon permis de marteau-piqueur parce qu'on avait besoin de débétoniser une grande partie de la ville. Et donc, déjà, c'était un super complément de revenu par rapport à l'aide financière qui était versée comme ça, sans condition. À toute la population, le fait de débétoniser, ça offrait des jolis bonus. Et c'est pas pour ça que je faisais, c'était surtout parce que j'adorais le fait de pouvoir planter des arbres là où j'avais marché des années entières, et surtout là où il y avait eu beaucoup de voitures et où je n'avais pas pu mettre les pieds.
Et donc là, si on parle à nos ancêtres de 2023, c'est-à-dire qu'il y avait un revenu qui était garanti pour tout le monde par mois, mais toi, tu choisissais aussi à cette époque-là déjà de t'engager en allant plus loin et de débétoniser, planter, donc de participer à des chantiers participatifs.
Ouais.
C'est exactement ça que tu faisais. Et effectivement, les voitures, tu te souviens, en 2023, il y en avait de partout.
C'est... Alors, en 2023, quand même, je faisais surtout les voyages en 2030 glorieuses. Hein. Ça, débétoniser, c'est depuis 2027. Là, on a quand même beaucoup moins besoin en 2030 parce qu'on était tellement nombreux que ça allait très, très vite. Hein. On pensait pas. Tu sais, en 2023, on me disait mais 2027, c'est... Enfin, quand on était en 2023, on me disait 2030, c'est très proche. Et aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai qu'en 7 ans, y a tellement de choses qui changent. Mais déjà, en 2023, si on regardait une petite dizaine d'années en arrière... C'est fou le nombre de choses qui avaient changé.
Et ce qui est probable aussi, c'est que si on avait dû imaginer les 2030, on se serait dit que c'était impossible de le faire. Mais par contre, en se fixant aussi des étapes intermédiaires et en décomposant les objectifs, on y est arrivé. Et on est arrivé à quelque chose d'incroyable. Quand je regarde derrière moi, c'est fabuleux ce qu'est la société en 2030 aujourd'hui. Et donc, tu as plusieurs métiers. Et comment tu occupes ton temps en général? Tu travailles beaucoup ou...
Bah, effectivement, on dit que j'ai plusieurs jobs, plusieurs métiers, mais finalement, je le vois plus comme un job. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on n'a plus cette notion de monétarisation du temps. C'est aujourd'hui, je peux faire beaucoup plus de musique et je peux aussi accompagner quand même dans la technologie. J'ai toujours cette casquette de product manager que j'utilise, mais ce qui est génial aussi, c'est que notre vision de la technologie s'est totalement transformée. On disait tout à l'heure que ça serait bien d'avoir une technologie au service des hommes et pas l'inverse. Aujourd'hui, en 2030 glorieux, c'est véritablement le cas. Marin nous l'a bien rappelé. Aujourd'hui, on n'est plus branché sur notre téléphone en permanence comme il y a 7 ans. Les gens, quand ils sont dans les transports en commun, qui maintenant sont très développés, ils ont appris à parler les uns avec les autres et à s'émerveiller des rencontres qu'ils peuvent faire. Et il y a plein de choses magnifiques qui se dessinent à partir de ces rencontres.
Ouais, je me rappelle le temps que je pouvais perdre en 2023 à consulter mon téléphone, alors qu'aujourd'hui, j'enrichis mon imaginaire, je réfléchis, je vague à mes pensées, et ça fait du bien aussi de faire du temps, passer du temps à rien faire. Et en 2030, pardon, est-ce que Marseille est aussi inégalitaire qu'en 2023, ou ça s'est amélioré?
Alors, bon, déjà, toutes les inégalités ont été bien réduites ces dernières années, et ce qui est génial, c'est aussi qu'au niveau même du territoire marseillais, ça se ressent. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2027, il y avait vraiment tous les quartiers nord qui étaient opposés à cet énorme 8e, avec des niveaux de vie quand même très, très, très différents. Et il y avait peu de mixité, peu de croisement entre ces différentes populations. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus cette vision avec tous ces clichés. Ce qui est fabuleux, c'est que les arts se rencontrent aussi. D'ailleurs, le dernier concert que j'ai vu dans le parc des Catalans, c'était incroyable. C'était quoi, un quatuor à cordes avec trois rappeurs et y avait une chora, et c'était génial de voir ça. C'était incroyable, et tout simplement parce que on a aussi vraiment cherché cette richesse culturelle dans on a eu cette ouverture finalement où on a compris que la crainte de l'autre, c'était pas forcément, c'était beaucoup plus à y perdre. Et on va beaucoup plus aujourd'hui vers la diversité. On sait que c'est quelque chose qui est extrêmement nourrissant pour l'âme.
Alors c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir, mais c'est vrai que par rapport à il y a 7 ans en arrière, c'est incroyable. Moi, je me souviens de la première décision de piétoniser l'autoroute Nord pour désenclaver les quartiers. Ça a été merveilleux de pouvoir commencer à cultiver dessus. Et d'ailleurs, c'est compliqué d'être autosuffisant aujourd'hui à Marseille avec les problèmes d'approvisionnement en eau, mais quand même, on produit beaucoup plus de légumes que ce qu'on consomme, enfin qu'à l'époque. l'époque.
Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a aussi, on parlait des low-tech tout à l'heure, c'est génial comme aujourd'hui, il y a plein de mécanismes low-tech qui permettent de préserver l'eau justement dans tous les jardins de permaculture qu'on a en périphérie et même en zone complètement urbaine. On s'y déplace très facilement avec des bus à vélo, des bus à pédales, et il y a plein de petites choses très simples qui nous ont permis aujourd'hui de vivre beaucoup plus sereinement aussi dans notre gestion de l'eau. Et aussi un autre aspect aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de gratitude. On voit moins les choses comme acquises et tu disais très justement tout à l'heure, à l'instant, c'est pas quelque chose qui est fait, c'est quelque chose qui se cultive. Et encore aujourd'hui, même en 2030 glorieuses, on se rend compte qu'il y a aussi des 2040 glorieuses et qu'il y aura toujours les 2050 glorieuses, puisque c'est une hygiène de vie finalement, cette capacité à nous projeter et cette capacité à nous relier les uns aux autres et à nous relier à nous-mêmes.
Et finalement, l'une des parties les plus difficiles aura été d'arriver à faire changer un petit peu les imaginaires déjà à l'époque en 2023 et de faire comprendre aux gens que c'était pas forcément un retour en arrière que de vivre de manière un peu plus simple, d'aller vers le mieux et non pas vers le plus. Et ça, c'était un sacré chantier.
Pour revenir à cette question des imaginaires, et on pourra, je dirais un tout petit mot aussi sur l'arbre des imaginaires. Pour revenir à cette question des imaginaires, c'est aussi dans le choix des mots. Le choix des mots est extrêmement important. Il y a quelques années, on parlait beaucoup, finalement ces dernières décennies, beaucoup de choix politiques, de choix d'organisation sociale ont été faits par le PIB, par le pouvoir d'achat. Et en fait, il y a de ça quelques années avant, le pouvoir d'achat, on appelait ça la qualité de vie. Et on a remplacé la qualité de vie à un moment par le pouvoir d'achat. Or, les deux ne sont absolument pas reliés. Notre capacité à consommer ne faisait pas de nous des personnes plus épanouies. Et on a compris aujourd'hui que malheureusement, on s'était parfois un peu fait avoir là-dessus.
Ouais, il y avait un petit peu de maïs de ma part quand j'ai commencé l'émission en parlant des 30 glorieuses. C'était l'augmentation de la croissance économique, donc du PIB.
Et liée au pétrole.
Liée au pétrole. Et donc, alors que la croissance, elle peut se faire sur bien des plans, et notamment sur le plan du bien-être, ou la biodiversité, ou voilà, sur bien des plans différents. Et donc, c'est pour ça que j'y faisais allusion. Je propose qu'on écoute une dernière fois notre reporter en voyage, marin, comme vous l'avez reconnu.
Chers auditeurs, chères auditrices, c'est toujours Marin, votre envoyé spécial en 2030 glorieuse, qui intervient pour vous envoyer quelques pastilles de plus loin lors de cette conversation que vous écoutez entre Gillian et Arthur. J'aimerais vous parler de la biodiversité, ici, en Lozère, sur les chemins de grande randonnée. En fait, ce sont deux mouvements assez contradictoires qui se confrontent sous mes yeux par rapport à la question de la biodiversité. D'un côté, on ne peut qu'assister à cette biodiversité qui s'est dégradée au fil des années. Lorsque je discute avec toutes les personnes qui sont autour de moi, elles me racontent que les conditions de vie ont changé. Il y a une vieille dame avec qui j'ai parlé sur le chemin qui me disait qu'avant, il faisait moins 36 l'hiver. Et que maintenant, on atteint à peine les moins 10 lors des hivers particulièrement rugueux. Vous vous rendez compte? Ils ont gagné, entre guillemets, 26 degrés l'hiver. C'est un petit peu le cas l'été aussi. J'ai beau être sur le plateau de l'Aubrac, qui est finalement assez haut, à 1150 mètres d'altitude. Mais ici l'été, qu'est-ce que c'est chaud. Ça, il ne faut pas le nier. En revanche, tout n'est pas perdu, parce que cette biodiversité, déjà, elle sait s'adapter. Elle l'a fait bien avant que nous, les humains, nous ayons pris conscience qu'il faille que nous le fassions aussi. Mais surtout, elle se régénère, parce qu'autour de moi, les humains ont pris conscience. qui font plus attention à leur environnement. Contrairement à Marseille, il n'y a pas un plastique par terre. C'est une forme de sobriété heureuse, parfois rugueuse, mais heureuse quand même. Heureuse d'être là et de partager ces moments. J'arrête de marcher. Il n'y a pas un bruit de moteur humain autour de moi, de moteur mécanique. Ce ne sont que le chant des oiseaux et du vent, parfois des vaches, des moutons et des chevaux, que j'entends sur mon chemin. Et les torrents. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter les torrents. L'hiver, ils sont à sec, mais ici, au printemps, ils apportent avec eux l'espoir du mouvement, de cette petite goutte d'eau, prête à rejoindre les océans, et qui, grâce aux petites rivières qu'elles forment, aux petits ruisseaux, finissent par former les grandes rivières.
Et donc voilà, marin se ressource, voyage en 2030 glorieuse en se rapprochant de la nature. C'est le terme est mal choisi, mais c'est une manière de faire. Et toi, Arthur, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux auditeurs pour voyager en 2030 si ils n'ont pas d'autres moyens de le faire?
Bah, effectivement, bon, y a participé à un voyage en 2030 glorieuse, mais il n'y a pas forcément besoin de ça. Ça, c'est une étincelle, c'est une impulsion, mais ils peuvent faire ça autrement. On parlait de l'arbre des imaginaires, justement, avec Marin. Je l'aide parfois à réfléchir, à mettre toutes ces belles images en sous le format d'un atelier. Donc bientôt, il y aura un nouvel atelier à faire pour changer son regard. Et puis, quelque part, c'est simplement chercher à des manières de changer son regard, de changer certaines de ses habitudes et parfois, avant d'acheter quelque chose, une nouvelle paire de Nike ou avant de ressortir son téléphone pour la énième fois de la journée, se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire à la place qui me ferait aussi beaucoup de bien, s'entraîner à marcher régulièrement dans la nature, parce qu'on a cette chance à Marseille aussi d'avoir beaucoup de nature autour de nous. Parfois, ça demande simplement de cultiver cette hygiène et puis de s'offrir des temps pour soi de déconnexion et de se poser la question de pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins trouvés que d'autres de se rapprocher de concepts comme le Ikigai, dans lequel on se pose la question de trouver quelque chose qui est au croisement entre ce qu'on aime faire, ce pour quoi on est doué, ce qui apporte au monde et ce pour quoi on peut être payé. Des concepts de ce genre qui peuvent permettre finalement de se trouver et de trouver de réfléchir au futur qu'on a envie de voir advenir et d'y contribuer.
Et donc, comme tu l'as dit, muscler son muscle de l'utopie, ou travailler son muscle de l'utopie tous les jours.
Tout à fait. Il y a un petit conseil très simple que je donne à chaque participant, c'est d'arriver à lier cette projection dans le futur avec une habitude. Donc par exemple, au moment où on se brosse les dents, de se dire, et moi dans le futur, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Ou alors de marquer un panneau, ici c'est l'utopie, et de le mettre au-dessus de ses toilettes, parce qu'on passe 10 minutes chaque jour là-bas, et on peut les faire en allant sur Instagram, ou au contraire, en voyageant en 2030 glorieuse.
Bien, merci beaucoup Arthur pour ces conseils, pour ces moments partagés. J'espère que, comme moi, vous avez pris plaisir à voyager en 2030 glorieuse, et je vous invite à le faire. Moi, je vais le faire dès que je sors de ce studio. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci.
Merci, au revoir.